Bonjour à tous. Je vais tenter de réfléchir avec vous ce matin sur les effets, sur les formés, d'un usage particulier donc de NeoPass, version prototypique, on va dire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu cela dans le détail. Mais ce qui m'intéresse avec vous, c'est finalement de répondre à quelques questions sur est-ce que c'est un outil particulier dans l'ensemble des outils qui sont à disposition. Est-ce que le fait de travailler à partir des vidéos telles que c'est proposé dans NeoPass, ça a une spécificité par rapport à d'autres bases de données qui proposent de travailler avec des vidéos. Et puis j'essaierai de réfléchir avec vous aux enjeux, aux questions de formation, aux vigilances à avoir en tant que formateur lorsque on souhaite travailler à partir de vidéos. Voilà. Pour essayer de dépasser le constat qui a été fait hier, qui me semble, c'est un constat que je fais, qui m'interroge, quand les étudiants vous disent « ça m'intéresse, mais je vois pas ce que j'en fais », par exemple, dans un usage d'auto-formation, c'est quelque chose qui nous questionne en tant que formateur. On met à disposition une ressource. Ça intéresse les gens, ils ont l'impression que ça va leur servir, mais ils ont des difficultés à opérationnaliser ça, à en faire vraiment quelque chose. Pourquoi ? Pour leur pratique de classe, pour faire évoluer leur pratique de classe. Donc, je vais essayer de faire ça avec vous ce matin. Pour vous faire entrer dans le bain, j'ai pensé que c'était intéressant de vous livrer quelques témoignages donc de professeurs stagiaires à l'époque qui ont pu bénéficier d'un travail sur ces vidéos. Donc quelques extraits en guise d'introduction. Je crois que c'était peut-être intéressant de rentrer par ces extraits-là. Je ne les développerai pas beaucoup, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça fait. Par rapport à ma pratique, ça m'interroge sur ma façon d'imposer ma présence avant même de parler, et aussi sur le choix de mes mots et de ma posture physique. Première réaction par rapport à l'effet d'une vidéo utilisée en formation. Quand le formateur affirme qu'elle tient sa classe, je suis surpris, ce n'est pas du tout mon ressenti. Donc là, on est d'accord, ce sont des propos qui sont quelque part pris sur le vif, à l'occasion d'une formation en présentiel à partir des vidéos qui sont maintenant dans NeoPass. D'accord ? Je le détaillerai par la suite. Mais là, on est bien sur un usage en présentiel par un formateur des vidéos qui sont maintenant consignées dans NeoPass. Quand je vois cette vidéo, je me dis qu'elle est submergée et de fait, je le suis aussi. Vous voyez le type d'effet. Lorsqu'on travaille avec les vidéos, on ne perçoit pas ça. On ne sait pas ce que ça provoque chez la personne à qui on s'adresse. Eh bien, notre travail a consisté, c'est un travail qu'on a fait avec Luc et avec Serge, à essayer de mesurer un petit peu ces effets. Ce n'est pas très scientifique dans la façon dont on l'a fait. On n'a pas épluché des quantités de données, mais ce qu'on a fait, ça s'est basé sur un travail qui a porté sur 110 professeurs stagiaires. Autre effet, la surnégociation ne me semble pas être une solution. Il me semble que le dialogue avec les élèves et le respect sont des voies plus porteuses. Donc voilà un autre effet qui a été verbalisé par un professeur stagiaire à la suite d'une analyse de vidéo qui est dans NeoPass. Voilà, ça c'était pour vous mettre un petit peu dans le bain par rapport à ce qu'on va travailler tout de suite. On va s'interroger sur ces effets-là, on va se demander finalement si c'est bien ce qu'on recherche, quelles sont les vigilances à avoir, quels sont les leviers à actionner pour parvenir à nos objectifs de formation. Lorsqu'on propose cet environnement numérique, qu'il soit à distance ou en présentiel. Dernier extrait que j'avais oublié, est très important pour moi, on verra par la suite ce qu'on peut en dire. En voyant cette vidéo, je me dis que c'est intéressant de ne pas s'énerver, de persister, de ne pas perdre patience. Ça peut paraître anodin, cette phrase-là, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça peut permettre d'expliquer une des spécificités de Neopass, de mon point de vue. Le fait de jouer quelque part sur les émotions. Ici, on a quelqu'un qui s'auto-conseille ou qui s'auto-régule ou qui se dit qu'il a peut-être intérêt à ne pas s'énerver avec ses élèves et à ne pas perdre patience. Et il prend comme modèle la personne qui est visionnée sur la vidéo. Alors, il me semblait intéressant de rentrer par les effets pour mieux revenir à ce qu'il y a avant ces effets-là. C'est-à-dire, quelque part, se questionner sur ce qui se passe en amont du dispositif, en amont de l'usage. Il me semble que c'est intéressant d'interroger les paris que l'on fait, les intuitions que l'on a, les positions que l'on assume, avant même de proposer à des étudiants de travailler avec ces vidéos-là. Alors, par rapport aux données que je vous présente aujourd'hui, voilà les positions qui sont assumées. Alors, c'est certaines positions, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir d'autres, hein, mais voilà la position qui était assumée par les formateurs. Pour moi, c'est une façon, en tout cas, de répondre aussi à un premier niveau, à la spécificité de cet objet-là. Puisque là, ici, les gens qui utilisent le dispositif sont des gens qui sont aussi très impliqués dans la conception. Puisque, grosso modo, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à l'IUFM de Clermont avant que la plateforme ne voie le jour en ligne. Alors, trois positions assumées. Priorité à l'activité. Priorité à l'activité, je ne vais pas faire très long là-dessus, mais dans les extraits et dans les effets qu'on va étudier aujourd'hui, les positions qui étaient assumées par les formateurs étaient de dire que ce qui était premier, c'était de parler, de prendre comme objet de réflexion l'activité. Dans le sens de ce qui est fait, donc on s'intéresse à des comportements en classe, et on s'intéresse aussi à la façon dont cette activité est vécue. D'accord ? Donc on s'intéresse à ce qui est fait en classe, on pourrait dire on s'intéresse aux comportements ou aux pratiques des jeunes enseignants, et c'est pour ça qu'on utilise des vidéos de classe, et on s'intéresse aussi à la façon dont ils vivent ces situations. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a montré les comportements en classe, on montre des autoconfrontations, par exemple. D'accord ? Ça, c'est une position qui est assumée par les formateurs. On montre l'activité, on montre des comportements et on montre le vécu qui est associé à cette activité. Il me semble que ce n'est pas banal. Et il me semble que c'est une position qui est très clairement assumée. C'est une façon d'utiliser Neopass, hein, je le dis bien. Ce n'est pas la bonne façon d'utiliser Neopass, c'est une façon d'utiliser Neopass. Priorité à l'activité et importance donnée au vécu. Deuxième position assumée, c'est que l'apprentissage et l'activité sont indissociables. L'idée ici, sans aller trop loin, c'est que dans cet usage-là de Neopass, on considère que l'activité, c'est quelque chose de dynamique. Quelque chose qui est toujours en mouvement. On a parlé depuis hier de formes transitoires, de passages. Donc c'est bien cette idée-là, que l'activité que l'on montre, qui est figée dans des vidéos, c'est toujours des moments, c'est des instants. Et dans Néopas, il y en a plusieurs. Et ils sont organisés. En tout cas, il y a une certaine logique de présentation des vidéos qui fait qu'on montre certains extraits ou que certains extraits arrivent plus tôt avant d'autres. Donc, il y a quand même cette idée que l'activité, c'est quelque chose qui se transforme, c'est un processus, et que pour le formateur, le pari qui est fait, c'est que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce qui fait la différence entre ces instants qui sont capturés dans des vidéos. Il me semble qu'un des paris forts de Néopas, c'est d'insister sur ça. C'est de dépasser des photos à un moment donné pour travailler à ce qui fait, ce qui semble faire le lien entre ces photos-là. Ça va ? Sur ces aspects ? Donc il y a bien une logique dans Néopas de consigner des vidéos et de les organiser par rapport à certains aspects. Je prendrai le temps d'y revenir par la suite. Ce qui est très lié à ça, c'est la question de la temporalité de l'activité débutante. Il me semble que Néopas renverse la vapeur sur un aspect crucial de la formation. Quelque part, on peut se demander s'il n'y a pas quelque part deux façons d'approcher la formation. Une façon d'approcher la formation en se disant qu'on va prendre des vidéos chez des enseignants experts pour les montrer à des débutants, en se disant que qu'on a consigné quelque part les bonnes pratiques et que le fait de les montrer à des débutants, ça va leur permettre d'accéder à ces pratiques-là. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible envisageable dans un dispositif de formation. Montrer des bonnes pratiques, des pratiques qui sont jugées efficaces, estimées efficaces. Le pari de Néopas n'est pas là. On montre des gens qui ont du mal à faire le métier. On montre des débutants qui peinent à réaliser leurs objectifs, à poursuivre leurs buts. Est-ce que ça veut dire pour autant que les débutants sont quelque part une nouvelle norme pour l'activité? Je pense pas. On n'est pas en train de montrer des vidéos de débutants ayant des difficultés dans l'entrée en classe pour que ces activités-là deviennent des références à suivre. On est d'accord. Il ne s'agit pas de reproduire les gestes professionnels. Luc l'a très bien dit hier. On n'est pas là dans une attitude prescriptive par rapport à la formation. On n'est pas là pour se retrouver dans une situation où tout le monde ferait comme Romain en début de cours, par exemple. Ça paraîtrait très malvenu. Donc, si la norme n'est pas l'activité débutante à ses tout débuts, il me semble que Néopas fait le pari, du moins pense qu'il y a un intérêt à travailler sur l'activité débutante en train de devenir experte. Et je pense que le pari qui est fait dans Néopas, c'est qu'on peut apprendre de l'observation de cette pratique débutante en train de se construire. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire aux formateurs qui sont en face de moi et gens et aux personnes qui sont pris dans des enjeux de formation, c'est que le pari qui est fait dans Néopas, c'est de rendre disponible un outil qui permet de réfléchir à cette activité débutante en train de se construire. Il me semble que pour essayer de préciser un petit peu cette logique-là, il me semble que Néopas, dans l'incrémentation des vidéos qui est proposée, propose ou fait le pari que les enseignants vont se repérer dans ces pratiques incrémentées pour pouvoir faire un pas de plus. Il y a cette idée-là. Il y a un pari au niveau de la formation qui est de dire ou de considérer qu'il peut être fécond de travailler au plus près des préoccupations des stagiaires, au plus près des situations qui sont problématiques pour eux, en consignant ces situations problématiques sous la forme de vidéos. Donc ça, c'est un pari qui est fort au niveau de la formation, c'est essayer de partir de l'activité typique, problématique et critique pour les débutants. Et quelque part, le pari qui est fait en proposant plusieurs vidéos incrémentées, c'est que cette incrémentation va permettre de faire un pas de plus, va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons de pratique, des nouveaux possibles pour l'action. Ce que je vous proposerai, c'est de regarder au niveau des effets si ces objectifs-là sont bien atteints. Alors, j'ai modifié ce titre-là après les interventions qui ont été faites hier, notamment pour savoir finalement, NEOPAS, qu'est-ce que ça apporte en plus. Il me semble que je viens déjà d'en dire un petit bout sur la façon dont l'outil est conçu. Du moins, je parle du premier thème, après on verra, je pense que chacun des thèmes développés dans NEOPAS auront leur propre autonomie par rapport à ça. Mais le premier thème, à mon sens, relève de ce que je décris aujourd'hui. Il me semble que ce dispositif est original pour les raisons suivantes. Il reconnaît les difficultés typiques des débutants. Je pense que c'est quelque chose qui est assumé, c'est le fait de reconnaître les difficultés typiques des débutants. Et je pense que c'est un point fort de NEOPAS, que de faire cette démarche-là. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de rendre visible au collectif ces difficultés typiques. Chacun dans son coin, chaque débutant dans son coin, a tendance à penser que les difficultés qu'il se pose, qu'il rencontre, lui sont assez singulières, sont personnelles. Et le fait de consigner ces difficultés typiques dans une plateforme de formation permet quelque part de déplacer cette impression de solitude des débutants. Il me semble que c'est pas anodin non plus que de faire cela et de l'assumer. Reconnaître les difficultés typiques des débutants. Il me semble aussi que dans cette plateforme NEOPAS, il y a un effort de reconnaissance de la nécessité et du coup de la légitimité de pratiques intermédiaires. Les passages, les formes transitoires. Je me permets juste de réévoquer cette jeune professeure d'anglais qui réinterroge la prescription, faire du warm-up en début de cours, et qui, quelque part, adopte une pratique intermédiaire, des petits exercices en début de cours. Elle va faire ça, elle va rentrer chez elle, et elle va préparer des petites batteries de tests, des petites batteries d'exercices, qu'elle va distribuer en début de cours pour pouvoir faire cours, pour pouvoir accueillir les élèves et les mettre au travail. Il me semble que lorsqu'on consigne ces activités dans des vidéos qui sont incrémentées, on reconnaît la légitimité et la nécessité de ces passages. On reconnaît le fait que ces passages sont des passages, j'ai envie de dire, normaux pour des débutants. Troisième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que si tous les dispositifs de formation professionnelle ont bien comme objectif de viser un développement professionnel. Je pense qu'on peut très vite se mettre d'accord là-dessus. Tous les dispositifs de formation que l'on met en place visent un développement professionnel. Il me semble que la petite spécificité de NEOPAS, c'est que si on définit le développement professionnel comme la renormalisation de l'activité, il me semble que cette renormalisation, elle peut porter sur NEOPAS autant sur les gestes professionnels que sur des savoirs, que sur des situations ou que sur des émotions. dans la première thématique, il me semble que ce développement professionnel peut porter sur ces éléments-là. J'essaierai de le montrer, en tout cas. Alors, j'essaye d'avancer un tout petit peu et de rentrer un peu plus dans le détail de la situation dont je vous parle. Donc la situation dont je vous parle, c'est une situation qui se fait en cours magistral, où 110 professeurs stagiaires du second degré sont présents face à un formateur qui est Lucria, qui utilise donc les vidéos qui sont maintenant consignées dans Neopass pour faire une conférence en centre de formation. Cette conférence, elle était destinée à des professeurs stagiaires, donc sur l'année de stagiarisation. L'idée, c'était de leur proposer une formation qui les prépare à un horizon professionnel possible pour eux, qui était notamment l'Académie de Créteil. D'accord ? Donc l'objectif de cette formation-là, c'était de les sensibiliser à l'activité professionnelle dans un contexte particulier, celui de l'Académie de Créteil. Puisque toutes les vidéos consignées et utilisées sur ce temps de formation étaient des vidéos issues de travaux d'activité en éducation prioritaire. Alors, 8 cas vidéo de situation de classe, hiérarchisées. Certaines vidéos ont été montrées avant d'autres. Et toutes ces vidéos étaient relatives à un même objectif. Même objectif, faire réfléchir les étudiants sur l'accueil et la mise au travail des élèves. Au-delà des 8 cas vidéo, qui présentaient des situations de classe, donc en éducation prioritaire, on avait à chaque fois les entretiens d'autoconfrontation qui étaient utilisés par le formateur pour en dire un peu plus de cette activité-là. D'accord ? Donc on n'était pas quelque part en train de parler en surplomb de la vidéo observée. On regardait la vidéo observée et en même temps on s'appuyait sur l'autoconfrontation pour essayer de comprendre quelle était la logique, quelles étaient les intentions que se donnait l'acteur que l'on voyait en train de faire. Et cette logique, bien sûr, d'analyse de cas vidéo à partir des entretiens d'autoconfrontation, était fortement guidée par le formateur. On est devant un collectif de 110 personnes. On peut penser que cette formule-là puisse se tenir devant 20 personnes sur des petits groupes d'analyse, de pratique ou de questionnement autour des pratiques professionnelles. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, la main est bien, ou le guide est bien le formateur. Donc c'est une question qu'il faudra avoir, à mon avis, dans les dispositifs qu'on va essayer de discuter cet après-midi, c'est de réfléchir à des dispositifs mis à distance et puis à la question du guidage par un formateur, un tuteur, que ce soit en présentiel ou à distance. Il me semble que c'est une des questions qu'on a à régler par rapport à cette mise à disposition de vidéos. Soit on considère que la plateforme est suffisante et permet un travail intéressant à partir des vidéos et auquel cas on laisse cette pratique complètement autonome, ou on peut aussi décider de l'utiliser dans un contexte de formation. On peut préparer les étudiants à naviguer sur cette plateforme, on peut attirer leur attention sur certaines vidéos, on peut décider de les revoir après une période de navigation sur la plateforme, on peut se saisir de l'objet pour le manipuler, pour s'en servir par rapport à des objectifs précis de formation. N'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Donc ça, c'est la situation qui est considérée. Je vais essayer de développer un petit peu plus la logique de ce dispositif-là. Donc je vais m'intéresser à ces caractéristiques. Il me semble que les vidéos ne sont pas prises au hasard. Ça, c'est important de le souligner. À chaque fois, ce sont des situations typiques, et dans c'est des situations typiques exemplaires. Luc a assez insisté hier, lorsqu'il a présenté le dispositif dans son ensemble, sur ces aspects-là. Il a dit qu'on avait fait des choix, et que les situations qui étaient présentées étaient typiques et assez exemplaires. Elles sont le bon représentant de certaines pratiques que l'on observe régulièrement, fréquemment, chez les débutants. Dans ce dispositif de formation, j'ai essayé de caractériser à chaque fois l'activité du formateur et les effets sur les formés. Donc vous retrouvez formateur ici, c'est ce qu'il s'efforce de faire, que je caractérise juste après les deux points. Et j'essaye aussi de caractériser ce que s'efforce de faire le formé au cours de ce même moment de formation. D'accord ? Donc, situation d'analyse de vidéo. Le formateur prend appui sur des situations typiques et s'efforce de caractériser chacune des situations. C'est-à-dire qu'en plus de montrer la vidéo, le formateur attire l'attention des formés sur des propriétés de ces situations. Je vais prendre un exemple tout bête. Le formateur peut décider de focaliser l'attention des formés sur la question de l'espace, la gestion de l'espace. Il peut proposer de focaliser l'attention sur un autre aspect de l'activité. En tout cas, il y a une part de l'activité qui est celle du formateur qui consiste à caractériser, à guider quelque part l'observation des formés. De son côté, le formé s'efforce de se reconnaître. Il essaye de se reconnaître. Alors quand je dis il essaye de se reconnaître, il se demande si c'est lui ou si c'est pas lui. Et en quoi est-ce que ce qu'il voit c'est lui, et en quoi est-ce que ce qu'il voit c'est pas du tout lui. Alors parfois ils se reconnaissent, le plus souvent d'ailleurs, ils se reconnaissent. Parfois ils ne reconnaissent pas leurs élèves. Donc tous les cas sont possibles, mais on voit que la relation à ces vidéos, la façon dont ils utilisent ces vidéos, est assez différente entre ceux qui se reconnaissent dans ces vidéos-là, ceux qui ne se reconnaissent pas. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces vidéos-là, ils essayent de se projeter, du coup, dans ces vidéos. Ils se disent « ça pourrait être moi, ça pourrait être mes élèves ». Mais en tout cas, il y a ce jeu de ressemblance et dissemblance qui s'opère à chaque fois que les formés se retrouvent devant une vidéo. Pardon. Donc, premier point de focalisation, le formateur mobilise des situations typiques exemplaires pour caractériser ces situations-là, et le formé se reconnaît. Donc ça, on peut dire que c'est ce qui se fait à partir de l'utilisation d'une première vidéo. Et on voit progressivement au fil de ce dispositif de formation que des familles de situations viennent s'incrémenter les unes derrière les autres. D'accord ? Donc on passe d'une situation analysée à une suite de situations analysées. Il me semble que dans NeoPass, on a cette possibilité-là d'accéder à des familles de situations qui sont incrémentées, qui sont mises les unes derrière les autres, avec une logique. Et donc ce que je pouvais voir dans cette conférence à partir de l'usage des vidéos, c'est que le formateur, ici, lorsqu'il avait la possibilité de faire référence à plusieurs situations incrémentées, eh bien, il essayait de donner à chaque fois un aperçu de la suite des situations. Il s'intéressait plus au lien qui pouvait être fait entre ces situations-là, entre ces vidéos, qu'à ces situations pour elles-mêmes. Ce qui devenait objet d'analyse, c'est l'ensemble de ces vidéos. Du côté du formé, ce qu'il s'efforçait de faire, c'était quelque part de se situer et d'essayer d'enchâsser sa pratique dans cette incrémentation. Il essayait de se repérer encore une fois et d'essayer de voir en quoi est-ce qu'il pouvait situer sa propre pratique par rapport à cette suite de pratiques qui lui était proposée. Donc, si le formateur insiste sur des logiques qui peuvent expliquer l'évolution entre la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3 et la vidéo 4,
les former, essayent également de repérer ce qui peut faire la différence entre ces vidéos. Donc des situations typiques, des familles de situations incrémentées, mais aussi des vécus typiques. Il me semble que le fait d'introduire les autoconfrontations ajoute un élément en plus. Cette incrémentation de situations, elle est toujours reliée à des vécus typiques. C'est pour ça que dans NeoPass, vous avez la possibilité d'accéder aux entretiens d'autoconfrontation. Il me semble que lorsqu'on fait le choix en formation d'utiliser les autoconfrontations ou de ne pas les utiliser, c'est pas tout à fait la même chose. Si l'on décide de ne pas les utiliser, ça peut permettre de donner un peu de lest et de prêter des intentions aux acteurs, par exemple, ce qui est tout à fait possible et envisageable dans un scénario de formation. Par contre, si on accorde de l'importance à ces vécus et si on les mobilise en formation, il me semble qu'il y a une autre intention de formateur derrière. Donc le formateur ici, dépenser son énergie à mettre en évidence des situations et les vécus qui étaient associés à ces situations. Et on s'aperçoit du côté des formés que ça avait pour effet de renormaliser les vécus. Je prends un exemple tout simple pour dire ce qui est caché derrière ces expressions pas très heureuses. Lorsque vous montrez une vidéo d'un début de cours dans l'Académie de Créteil, les jeunes de Clermont-Ferrand se disent que c'est le chahut. Ils disent que c'est inadmissible. Et lorsque vous montrez l'entretien d'autoconfrontation de la jeune professeure qui est visionnée, et que cette jeune professeure vous dit que c'est une situation ordinaire et que ce n'est pas du tout le chahut, eh bien, au niveau des étudiants qui sont dans l'amphithéâtre, ils renormalisent, quelque part, le vécu qu'ils doivent associer à cette situation. Ils se disent que c'est des situations ordinaires de classe dans certains établissements qu'ils ne connaissent pas. D'accord ? Donc il y a un effet qui relève, à mon sens, de cette association entre des vidéos, des situations, des comportements observés et le fait d'associer les autoconfrontations et le vécu des acteurs. Il me semble qu'on peut faire des liens entre ces éléments-là, entre des comportements et des vécus associés à ces comportements ou à ces situations. Et du côté des effets que ça procure chez les formés, ça, quelque part, réinterroge la façon de qualifier ces situations-là. J'insiste pas beaucoup plus là-dessus, mais il me semble que l'intérêt, j'insiste assez lourdement là-dessus, je m'en aperçois, c'est que pour nous, le fait de donner ces vidéos incrémentées sur l'accueil et la mise au travail des élèves, ça sert plus, quelque part, à une mise en regard de la pluralité des pratiques qu'à un usage isolé de chacune des vidéos pour elle-même. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire. Et il nous semble qu'un travail sur l'ensemble des vidéos permet de plus questionner les pratiques et de voir comment est-ce qu'on peut les réviser. Donc finalement, je pense que l'attention en tant que formateur, elle doit porter plus sur la façon de penser les évolutions lorsqu'on utilise une banque de vidéos incrémentée. Il me semble que l'objectif que l'on se donne, c'est d'essayer de conceptualiser des écarts entre les vidéos. On essaye de conceptualiser ce qui fait la différence entre des vidéos observées, entre plusieurs vidéos observées. Et on fait le pari que cet effort de conceptualisation autour des écarts, de ce qui fait la différence entre Romain et Cécile, en début et fin de frise de NeoPass, ça a un intérêt en termes de formation. Ça a une fécondité en termes de formation. Effet désirable, indésirable. Je dis juste un mot là-dessus. C'est un peu plus large que ce que je viens de dire auparavant. On s'aperçoit qu'il y a des émotions qui peuvent faire obstacle à l'analyse. Lorsqu'on utilise des vidéos des vidéos qui sont parfois où on montre des situations un peu difficiles pour les acteurs, on s'aperçoit que du côté des formés, ça peut conduire à de l'empathie ou à de la compassion. Et c'est pas tout à fait pareil par rapport aux enjeux de formation qu'on veut y mettre derrière. Il nous reste combien de temps ?
La moitié fait.
D'accord, ça va. L'empathie, donc il y a une frange des 110 professeurs stagiaires qui étaient dans l'amphithéâtre qui étaient très clairement dans une position d'empathie. Ils étaient peu nombreux, on va dire. On a estimé, je crois, qu'il y en avait 20% qui étaient en situation d'empathie. C'est-à-dire que... non, pardon, je dis exactement l'inverse de ce que je veux dire. 20% étaient dans une situation de compassion, c'est-à-dire qu'ils souffraient avec l'autre. Ils regardaient la vidéo et ils disaient « Cette situation-là, c'est insoutenable et je souffre avec lui. » Voilà. Et on s'apercevait que ça les faisait quasiment décrocher du temps de formation. D'accord ? On voyait que par la suite, ils étaient incapables de dire quelque chose de cette vidéo-là. Voilà. D'accord ? Donc, première réaction, compassion. C'est difficile pour ce jeune prof, je me vois à sa place et j'ai l'impression de ressentir ses émotions et je ne sais pas quoi faire de cette vidéo. Voilà. Donc moi, il me semble que utiliser ces outils-là, ça suppose de se poser la question de la façon dont on peut prendre en charge ces effets de compassion. Comment est-ce qu'on peut essayer de passer outre ces effets de compassion ? Puisqu'on s'aperçoit que la plupart des étudiants sont plutôt dans une empathie. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de la souffrance de l'autre, ils se représentent la souffrance de l'autre, mais ils ne souffrent pas avec lui. Et ceux-là parviennent à analyser les données, parviennent à analyser les vidéos. Ils comparent la vidéo observée avec leur propre pratique. Ils font quelque chose des extraits vidéo qui leur sont proposés. Donc moi, il me semble que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'attirer l'attention des formateurs lorsque notre objectif est de travailler sur des vidéos, de travailler sur des autoconfrontations relatives à ces vidéos et qui engagent quelque part des aspects affectifs du côté des formés. Il me semble que du côté des effets très fortement désirables, on a observé des renoncements remis en jeu. Alors je vais essayer de prendre un exemple très, très simple pour vous dire cela. Et cet exemple, c'est l'exemple de la première heure de cours. Les 110 professeurs stagiaires qui étaient présents dans cet amphithéâtre étaient persuadés, avant cette conférence, je pense qu'à peu près tous étaient persuadés de ça, ils étaient persuadés que la première heure de cours qu'ils avaient eue en tout début d'année, elle était déterminante pour le reste de l'année. Grosso modo, si j'ai réussi la première heure, je réussis mon année. Si je rate ma première heure, je rate mon année. Donc il y avait le sentiment que la première heure de cours était quelque part le bon élément à regarder pour prédire la réussite ultérieure de l'année. D'accord ? Et en fait, le fait de montrer des vidéos incrémentées avec des gens qui sont parfois en difficulté et puis quelques mois après qui ont complètement redressé la barre, ça a pour effet de remettre en jeu des situations de renoncement. Et ça, c'est des effets qu'on n'avait pas trop anticipés. Dire que montrer des gens qui se bagarrent un petit peu avec les situations et qui quelques temps après réussissent dans ces mêmes situations ou dans des situations proches, ça fait dire aux jeunes en formation que ce à quoi ils avaient renoncé, ils peuvent le remettre en jeu, ils peuvent le réinvestir. C'est pas perdu. Et moi, je pense que c'est un des enjeux forts de cette plateforme que de montrer des dynamiques. Lorsqu'on montre des dynamiques, on autorise des remises en jeu, on autorise des réinterrogations au niveau de l'activité. Sur les effets désirables, il me semble qu'un des enjeux forts, c'est bien sûr d'accélérer les débuts, d'accélérer les processus de développement professionnel, par exemple sur la thématique de l'accueil et de la mise au travail, pour notamment éviter des situations qui exposent les stagiaires. Et c'est bien pour ça que, par rapport à ce qui a été dit hier, la plupart des professeurs stagiaires ou des néo-titulaires à qui on propose de travailler sont volontaires. Ils sont très fortement volontaires parce qu'ils savent que ces situations exposent. Et ils ont quelque part envie de faire en sorte que ces vidéos-là puissent donner lieu à un traitement en formation et que du coup, elles exposent moins les camarades à venir. Voilà. Ils ont l'impression de participer quelque part à la résolution de problèmes pour la profession, pour le métier, et notamment pour les débutants. Je finirai par, juste par cette vidéo-là. Ce sur quoi j'ai insisté ici, c'est sur un usage particulier d'un prototype de Néopass, si on peut le dire comme ça. Mais tous les usages sont ouverts. Il n'y a pas quelque part dans Néopass de passage obligé. Vous pouvez commencer à consulter la dernière vidéo de Cécile. Et après, vous pouvez aller consulter celle de Romain et d'autres situations intermédiaires. Il n'y a pas de guidage. La plateforme est un environnement qui est relativement souple. Vous pouvez décider d'ignorer tout le travail qui a été fait autour des composantes de l'activité. Vous pouvez décider d'ignorer les résumés qui restituent dans le contexte. Mais vous pouvez aussi décider de tout prendre et de tout considérer. Donc tous les usages sont ouverts. Ce qui me semble essentiel à garder dans cette ouverture des usages, c'est l'enjeu du métier. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs thématiques d'un Néopass. Et c'est pour ça que hier on réfléchissait à la façon de finalement, à quel cadre de référence mobiliser pour pouvoir faire dire quelque chose à ces données-là, à ces vidéos. Il me semble que garder l'enjeu du métier, c'est quelque part se prémunir par rapport au découpage. Découpage en thèmes ou découpage en compétences. On a l'habitude maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise habitude, sûrement qu'il y a des enjeux, mais beaucoup de limites à un découpage par compétences. Mais il me semble qu'il y a des découpages par compétences qui font perdre l'enjeu du métier. La gestion de la classe, pour moi, c'est une compétence qui a tendance, lorsqu'elle est travaillée seule, à prendre des risques par rapport à l'enjeu du métier. C'est pour ça que hier, il me paraissait intéressant, par exemple, de se référer au modèle de Dominique Bucheton pour faire parler des vidéos. Puisque pour moi, ce modèle-là, il permet de garder l'enjeu du métier. De garder l'enjeu du métier, quelle que soit la focalisation ou le point d'entrée que l'on privilégie. Donc il me semble que tous les usages semblent possibles si la réduction que l'on opère, puisqu'à chaque fois on opère des réductions, hein, l'activité dans son ensemble est complexe, lorsqu'on l'aborde en formation, on décide de la regarder par un petit bout. On prend un petit bout, on essaie de tirer un fil. Et il me semble que ce fil doit être suffisamment fin, mais suffisamment conséquent aussi, pour que l'enjeu du métier soit conservé. Je vais en rester là, en tout cas, et je peux, si vous voulez, revenir plus en détail sur des effets particuliers, et je vous écoute.